et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Manirakiza avec vous au micro. Michel Claire-Joseph assure la réalisation et la production de cette édition. Ce soir, nous parlons des Nizarites. Bien que peu connus du grand public, les Nizarites ont joué un rôle central dans l'histoire médiévale, notamment au Moyen-Orient et en Asie centrale. Cette branche de l'islam ismaélien a traversé les siècles, mêlant mysticisme, philosophie et stratégie politique depuis la forteresse légendaire d'Almout jusqu'à son influence moderne. Leur impact s'étend des croisades à la fondation de l'État des assassins, dont le nom reste associé à des mystères et des légendes. Mais qui sont réellement les Nizarites? Pourquoi leur histoire est-elle souvent associée aux fameux assassins du Moyen-Âge? Pour éclairer cette période et nous aider à mieux comprendre l'influence de cette branche ismaélienne, nous avons le privilège d'accueillir un historien et un expert des dynamiques religieuses contemporaines. À travers son expertise, nous espérons découvrir des aspects méconnus de cette époque et des acteurs clés, tout en explorant l'héritage des Nizarites et leur place dans le monde actuel. Nous avons en ligne le professeur Mohamed Mbodj, professeur à Manhattanville University à New York. Professeur, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, voudriez-vous nous expliquer qui étaient les Nizarites et d'où vient leur origine dans le contexte de l'islam?
C'est une branche du chiisme, donc de la grande famille chiite, et qui s'est détachée de la branche principale à partir de lors du décès et des querelles de succession du calife Fatimide. Calife Fatimide, ça veut dire aussi c'est un calife chiite qui régnait sur le monde musulman à partir du Caire. Donc, le calife Fatimide al-Mustansir à son décès. Donc, il y a eu deux camps pour la succession. Et un des camps avait pris fait et cause pour son frère. Donc, et c'est de là que finalement, les Nizars, c'est de là qu'est venue la scission. Et en particulier la branche Fatimide en Iran s'était détournée pour marquer son indépendance certainement peut-être par rapport à la branche principale qui était la plus puissante certainement de l'islam qui régnait au Caire. Donc c'est une querelle de succession dans une famille, mais une famille régnante du califat Fatimide qui a donné naissance à la branche, disons, cadette des Nizars. Voilà.
Et comment se distingue l'islam ismaélien des autres branches de l'islam, notamment des sunnites et des chiites?
Alors, les ismaélites sont des chiites et qui donc professent d'abord l'origine même de leur foi, c'est la croyance que Ali et le successeur légitime du prophète Mohammed, qu'il a été spolié, qu'il a été que les règles de succession n'ont pas donné assez de poids à la famille du prophète, et c'est à partir de ce moment donc qu'il y a eu une scission pour marquer leur opposition, en particulier à partir du deuxième calife Omar. C'est à partir de ce moment-là que le chiisme, s'est réveillé en soutenant un candidat particulier, Ali, le cousin et gendre du prophète, comme étant le successeur légitime, ou en tout cas le successeur préféré, parce qu'il répondait aux critères de leadership, donc d'être un dirigeant de la première heure, parce que c'était quelqu'un dont la vie était en parallèle avec celle du prophète, et d'être de son sang, parce que c'est son cousin paternel, c'est dans la famille de Ali que Muhammad a été élevé lors du décès de ses deux parents. Donc il y a une sorte de reconnaissance que certainement Ali est l'être le plus proche possible au prophète Muhammad dans ce contexte-là. C'est là que le schisme est venu. Et donc le schisme attend, espère la venue d'un imam qui va venir rétablir, disons, le droit, c'est-à-dire rétablir la place légitime que doit occuper la famille du prophète Mohammed dans la direction des affaires musulmanes. Donc c'est de là que le schisme s'est fondé. Et par la suite, ce qu'on a ici, c'est véritablement une sorte de querelle de préséance qui, des successeurs éventuels de Moustansir, devaient lui succéder. Et ceux du Caire ont choisi un candidat. Et les chiites qui vivaient en Iran ont plutôt supporté son frère Nizar. C'est comme ça que donc on se retrouve avec ces divisions. Alors maintenant, sur le plan, par la suite, évidemment, des différences religieuses vont se manifester. Par exemple, les chiites traditionnels prient 5 fois par jour. Ici, donc, les chiites nizarites prient 3 fois par jour. Donc, il y a des différences comme ça qui vont se manifester au long du développement de cette fracture entre les deux.
Oui, vous soulignez le leadership spirituel des Nizarites, comment il s'est organisé. Quel rôle a joué le vieux de la montagne dans cette structure?
Alors, le vieux de la montagne est un personnage que quelquefois les gens interprètent comme une sorte de de mythe, mais en réalité il a existé. Donc Hassan, qui est le leader de la fraction qui s'est détaché du chiisme traditionnel des Fatimides, a développé une sorte de chiisme de isolé dans les hautes montagnes de l'Iran. Et donc de là s'est développée une philosophie d'une indépendance par rapport non seulement au calife abbasside sunni, que de toute façon les chiites ne reconnaissaient pas comme étant légitime, mais aussi par rapport à leurs frères en Égypte. Donc ils ont développé cette philosophie qui fait que effectivement ils ont confiance en leur guide qui va développer une philosophie particulière et qui a débouché sur ces traits dont j'ai parlé tout à l'heure, le vieux de la montagne. En arabe, Cheikh Al-Jabal, donc le vieux de la montagne, en fait, c'est une traduction pour le titre de ce grand monsieur, de ce fondateur des Nizarites. C'est un titre aussi d'ailleurs que les différents leaders des Nizarites vont partager par la suite, vont utiliser par la suite. Et comme j'ai dit, le premier d'entre eux, c'est Hassan ibn al-Sabah, lui-même qui dirigea depuis la forteresse d'Alamout, le groupe des Nizarites, et en particulier cette fameuse excroissance qu'on appelle les assassins. Donc c'est lui qui est le fondateur et c'est lui qui est donc le premier vieux de la montagne, mais il y en a eu d'autres par la suite, parce que c'est devenu un peu un titre, pour reconnaître le leader politique de cette branche de la Shia.
Les Nizarites sont souvent associés à la légende des assassins, vous venez de le dire. Quelle est la part de mythe et de réalité dans cette histoire?
La part de mythe, évidemment, c'était des gens qui se droguaient et qui ensuite ne connaissaient pas de limites dans l'expression de leur violence, etc. Mais la réalité est que les Shias Nizarites sont une minorité dans une minorité. Ils sont une minorité parmi les chiites, et les chiites sont une minorité dans l'islam. Donc ils sont réduits à une position défensive, et en quelque sorte, pour préserver leur autonomie dans les montagnes, ils ont développé une politique de contre-attaque. Et cette politique de contre-attaque visait les gouverneurs, les califes et autres, en particulier postés par les Abbasides dans la région. Donc, ce qu'on peut appeler des attentats ou des assassinats ciblés, et c'est de là qu'est partie, cette réputation. Et effectivement, ils l'ont pratiqué comme une façon de décapiter par avance l'ennemi qui, de toute façon, n'a jamais renoncé à conquérir et à les subjuguer totalement dans cette région. Donc c'est de là qu'est venue cette fameuse conception des assassins.
Et quel était le rôle de la forteresse d'Al-Mut et comment cette communauté a-t-elle survécu malgré les persécutions?
Alors la forteresse, c'est donc le siège central, comme j'ai dit tout à l'heure, au sommet de la montagne, au sommet des montagnes, parce que d'une part, les Shias ne sont plus d'accord avec leurs frères d'Égypte, qui sont les puissants Fatimides, et les successeurs, les Seljouks. Ils ne sont pas d'accord avec les califes Abbasides de Bagdad, qui sont leurs voisins les plus immédiats au nord. Et donc, ils sont dans. Et évidemment, à l'est, il y a la grande Asie centrale, où d'ailleurs, plus tard, va venir l'invasion mongole. Donc c'est une situation précaire où, en quelque sorte, il faut qu'ils se défendent, si on peut parler ainsi. Et c'est dans cette forteresse de Malmut qu'ils ont donc organisé cette défense et ils ont résisté et ont contrôlé l'expansion l'indépendance de leur branche. C'est très difficile de parler d'expansion dans ces conditions, aussi longtemps que possible, c'est-à-dire qu'ils ont résisté à des tentatives de les reprendre, de les subjuguer, en particulier à partir de Bagdad. Et finalement, il faudra attendre l'intervention mongole, l'invasion mongole, qui d'ailleurs va s'y prendre deux fois pour finalement prendre la forteresse. Et qui donc symboliquement reste, le symbole de l'indépendance donc de cette branche de la Shia dans cet endroit du monde.
Oui, le déclin des Nizarites est souvent associé à l'invasion mongole que vous venez de souligner. Comment cette conquête a-t-elle affecté la communauté?
Alors, les Mongols ont tout brûlé, pour être rapide. Donc, ils ont détruit. Ils ont détruit aussi, parce que dans cette forteresse et d'autres forteresses aux alentours, mais surtout à Malmut, donc il y avait des trésors d'archives, de livres, les écrits scientifiques, les savants de la branche, ils ont développé une culture donc à transmettre évidemment dans le futur, et tout ça a été brûlé. A été détruit et a forcé donc la fuite, et c'est comme ça que les Nizarites ont été obligés de se réfugier et d'aller donc vers le sud en particulier, où ils sont peut-être où ils ont trouvé le plus l'asile le plus ouvert. Ce qui est aujourd'hui le Pakistan et le nord de l'Inde, c'est là où on les trouve principalement, c'est là où se trouve la plus grande partie des Nizarites qui ont pu échapper au massacre des Mongols.
Vous suivez le dialogue des religions, des Nizarites. C'est notre sujet de ce soir. Notre invité, le professeur Mohamed Mbodj, Eric Manilakiza, avec vous. Restez avec nous. C'est un voyage à travers l'histoire et la spiritualité que nous vous proposons ce soir sur VOA Afrique et dans le dialogue des religions qui vous revient dans un instant. Professeur, l'islam des Nizarites est souvent décrit comme modernisé et ouvert au dialogue interreligieux. Qu'est-ce qui explique cette approche si particulière ?
Je pense qu'il y a une influence indienne certainement, donc parce que cette partie est très proche de l'Inde et en particulier donc de la vallée de l'Indus. Où il s'est développé une grande tradition de diversité religieuse depuis d'ailleurs les temps de la Mésopotamie antique. Et donc, il y a une sorte d'ouverture d'esprit par le voisinage. Et deuxièmement, il y a eu une hégémonie chiite sur l'islam avec les Fatimides, mais qui n'a pas marché, qui n'a pas duré. Et lorsque les Fatimides ont été vaincus, les chiites se sont retrouvés en position défensive et ont donc développé une sorte de position de repli pour l'instant, en attendant peut-être de meilleurs jours, de tolérance et d'ouverture par rapport à d'autres courants musulmans et même par rapport à d'autres religions. Donc c'est comme ça certainement que il y a une prédisposition, disons, des Nizarites à fonctionner comme ça. En plus, maintenant, l'isolement a donné beaucoup de pouvoir à ce qu'on peut appeler leur clergé ou bien leur dirigeant. Et d'ailleurs, même Hassan al-Sabbah, dont j'ai parlé tout à l'heure, en un moment donné, s'était même proclamé Dieu. Donc, c'était proclamé plutôt légal de Dieu, pas Dieu, mais légal de Dieu. Donc, ce qui fait que il y a une sorte d'identification qui met en relief leur non-appartenance, même si, d'une manière générale, ils reconnaissent faire partie peut-être d'une mouvance musulmane générale, mais ils ne suivent pas les grands califes, les grands ordres politiques du moment, que sont les califes soit à Bagdad, soit au Caire, et plus tard à Constantinople, donc à Istanbul. Donc c'est un peu dans cette sorte de recherche d'une identité remarquable, particulière, différente, qu'ils ont développé cette tolérance. Parce qu'ils ne sont pas en mesure, en fait, aussi, disons, de s'imposer ou d'imposer leur ordre à qui que ce soit. Donc, c'est un peu comme ça que cet ordre s'est ouvert et a pratiqué donc, un islam très tolérant, très acceptant de beaucoup de choses que peut-être d'autres musulmans un peu plus rigoureux auraient refusé ou, en tout cas, il aurait été difficile d'accepter.
Et peut-on considérer les Nizarites comme un modèle de coexistence entre tradition et modernité dans le monde musulman ?
Ah oui, certainement. Ils restent fidèles à ce message d'Hassan al-Sabbah. Ils restent fidèles, même en minorité, à l'idée que l'islam est beaucoup plus simple que finalement la manière dont les chiites les chiites traditionnels et les sunnites traditionnels pratiquent. Il y a un côté spirituel qu'on peut retrouver dans le soufisme. Et là aussi, c'est en particulier une influence peut-être des endroits où, d'une part, les Nizarites ont pu survivre et prospérer, et d'autre part aussi, la recherche d'identité de raffinement de leur spiritualité Et quelquefois, lorsqu'on cherche à se distinguer, à se séparer, disons, de courants dominants, on développe un ésotérisme qui va de l'avant plutôt qu'un ésotérisme qui regarde le passé. Et c'est ainsi qu'on peut dire que effectivement les Nizarites, les Ismaïlis sont à la fois ancrés dans cette farouche indépendance de leur vision du monde et de leur pratique religieuse d'une part, et d'autre part ouverts et prêts à communiquer, à dialoguer et à influencer et à se laisser influencer par d'autres cultures.
Quels étaient les rapports des Nizarites avec les croisés et d'autres puissances étrangères à l'époque médiévale?
Les croisés ont pensé à un moment donné utiliser d'air. Ils ont eu quelques succès, en particulier lors de la conquête de certaines parties du territoire égyptien, et même la fameuse conquête de Jérusalem certainement n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas des alliés musulmans. Mais d'une manière générale, donc, ils ont cherché à travers justement cette fracture. Il ne faut pas oublier que c'est en 1090 que Hassan al-Sabah a fondé et allait occuper la citadelle Alamut. La querelle de succession était assez fraîche à ce moment-là. Donc, les croisés sont arrivés à ce moment-là. Donc, il y a une sorte de convergence qui faisait que peut-être dans cette région, il aurait été possible de s'allier avec eux. Mais les croisés sont dans une région qui est beaucoup plus au nord et beaucoup plus à l'est que là où se retrouvent les Nizarites d'abord. Une alliance aurait été possible, mais certainement n'aurait pas été d'une très grande utilité. Certainement pas pour les croiser, sinon d'ailleurs simplement pour affaiblir peut-être la puissance musulmane. Mais c'était une possibilité. Et par la suite, lorsque la première croisade a été défaite et la seconde, la troisième, quatrième et toutes les autres qui ont suivi ont été défaites, les croisés ont désespérément cherché des alliés dans la zone, et beaucoup ont pensé que les chiites, d'une manière générale, pouvaient être des alliés contre les sunnis de l'autre côté, étant donné que le champion de la reconquête et de la défaite de la reconquête musulmane et de la défaite des chrétiens, Salah ad-Din, est un sunnite qui opère à partir du Caire. Et donc, dans ces franges qui sont un peu plus à l'est, assez éloignées du Caire, certains croisés ont effectivement rêvé d'avoir une alliance avec les Nizarites. Mais là aussi, ça n'a pas marché. Ponctuellement, ils ont pu réussir, mais d'une manière générale, ils n'ont pas pu convaincre des alliés de taille, disons, décente, d'être de leur côté. Et ce qui fait que finalement, ça n'a pas marché.
Son voyage à travers l'histoire et l'actualité des Nizarites nous a permis de mieux comprendre cette communauté singulière qui a su traverser les siècles en conciliant héritage spirituel et engagement dans le monde moderne. Loin des clichés et des légendes qui les entourent, les Nizarites illustrent une diversité au sein de l'islam qui mérite d'être mieux connue, notamment en Afrique, où leur contribution au développement est indéniable. Merci à notre invité, professeur Mohamed Mbodj, pour ses éclairages passionnants. Merci, professeur.
Merci, et je vous remercie de me donner l'occasion. Et bonne journée à tout le monde.
Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité à VOA Afrique et au dialogue des religions. Je vous souhaite une excellente soirée et je reviens la semaine prochaine. Eric Manilakidza était avec vous. À très bientôt.